Alors, vous l'avez vu, on a eu pas mal d'informations pendant ce premier moment avec l'intervention des médecins et de l'infirmière. Avant de pouvoir leur poser des questions dans quelques instants, je vais appeler Éric Egazier qui va me rejoindre, le directeur général de Domus Vie. Merci de l'accueillir. Voilà, venez à mes côtés. Merci d'être avec nous. On va parler parce que ça fait le lien avec ce qui vient d'être présenté sur comment on fait pour vivre avec la maladie. Peut-être tout d'abord, vous pouvez nous dire quelques mots sur Domus Vie pour ceux qui ne connaîtraient pas la structure.
Bonjour à tous et merci de m'accueillir. Alors Domus Vie, c'est une entreprise qui a été créée il y a 45 ans par une personne qui est toujours le patron de Domus Vie aujourd'hui. Donc Domus Vie, alors je vais parler, bon, est présent dans 9 pays, mais essentiellement sur la France. C'est donc dans l'ordre, et je vais les citer dans l'ordre qui nous intéresse par rapport à tout ce qui a été dit avant. Donc Domus Vie, c'est d'abord 3 millions d'heures à peu près entre soins et services à domicile. C'est aussi une cinquantaine de résidences-services et 262 EHPAD en France. Donc, nous couvrons les trois activités qui sont le parcours possible de la personne âgée, sachant qu'on est tous d'accord ici que la première volonté d'une personne âgée, c'est de rester à son domicile, c'est clair. D'accord ? Voilà. J'en dis pas plus. Je pense que ça suffit pour le raisonnement d'après.
Vous êtes partenaire de la Fondation Recherche Alzheimer. Pourquoi ?
On est partenaire et on est très content de l'être, hein, parce que c'est un sujet qui nous touche de près, nous, la maladie d'Alzheimer, qui touche de près alors, nos clients à domicile, qui touche de près nos résidents dans les résidences-services et dans les EHPAD. Et avant tout, ce qu'on aimerait, nous, c'est résoudre ce problème. On voudrait qu'une solution existe. Pourquoi ? Parce que notre vrai métier à la base, c'est d'aider les personnes âgées sur de la dépendance physique et pas cognitive. Puisqu'on n'a pas les moyens de lutter contre ça. On peut les accompagner, mais on ne peut pas lutter. Donc, en tout cas, donc visiblement, oui, contrairement à d'autres opérateurs, on finance la recherche. Parce que pour nous, ce n'est pas notre cœur de métier.
Vous souhaitez nous parler de comment vivre avec la maladie.
Oui, alors oui, je voulais vous parler de ça parce que je pense que Madame l'infirmière a bien résumé. On va faire une transition assez forte entre le diagnostic et les actions qu'on peut mener. Si j'avais à résumer, je dirais que on a compris par les médecins ici présents que la maladie détruit des cellules. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'elle ne détruise pas la cellule familiale. Parce que, effectivement, par l'exposé qu'on vient d'avoir, et notamment le burn-out des aidants, on voit que ça peut avoir des implications et des répercussions sur les familles qui sont dévastatrices. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais je vous invite à regarder. Caroline Delage a produit sur C8 un reportage, un documentaire sur la vie de certains couples ou des filles qui s'occupent de leur maman qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Je vous invite à le regarder. C'est vraiment émouvant et ça montre bien les problématiques qui peuvent se poser et que la maladie dépasse les aidants assez facilement, malheureusement.
Alors concrètement, quelles sont les solutions qu'on peut proposer ?
Alors, nous, déjà, dans la partie... dans la partie, on va dire, personne âgée, on s'est attaqué à ce problème il y a quelques années, je dirais plus de 15 ans, dans la mesure où on a développé, le premier a ouvert en 2017, des plateformes de répit. Aujourd'hui, on en a 5. Le premier a ouvert en grâce. Alors 5, ce n'est pas suffisant, je vous l'accorde, mais c'est des projets longs à monter, notamment avec les autorités de tutelle, etc. C'est des plateformes où les aidants peuvent se retrouver pour pouvoir avoir des cercles de parole entre eux, parce que la parole se libère, et c'est bien de comprendre qu'on n'est pas tout seul face à ce problème. C'est aussi leur donner des formations, de l'information, et des ateliers spécifiques, hein, puisque la difficulté d'un parent, d'un aidant, par rapport à la personne concernée, c'est de garder le contact. Et il existe beaucoup de trucs et astuces pour garder le contact. D'ailleurs, vous verrez tout à l'heure un film où on voit vraiment, il faut arriver à trouver comment on peut se créer le contact, mais on peut garder le contact très longtemps dans la maladie, à condition de savoir comment. Et donc, ces cercles de répit permettent de le faire. Deuxièmement, ce qu'on a essayé de faire, c'est de former tout le personnel. Alors, pour le personnel de l'EHPAD, c'est assez facile de les former sur ces trucs et astuces pour qu'ils puissent les dispenser aux familles. On s'est lancé dans une aventure, je dis bien une aventure parce qu'on avance à mon goût pas assez vite, dans la formation de tous les intervenants à domicile. Parce que c'est là où elles peuvent prodiguer des astuces, des trucs et astuces, ou comment vivre la maladie pour les familles qui ont encore à charge à domicile leurs parents qui sont concernés par des troubles cognitifs. Alors pourquoi je dis que c'est une aventure? C'est que par essence, les auxiliaires de vie ne sont jamais chez nous. Elles sont au domicile des clients. Donc pour arriver à les faire venir en formation, c'est toute une organisation. On en a 2500. Vous comprendrez que c'est pas... Mais on ira... On a la détermination d'arriver jusqu'au bout. On a créé ensuite une plateforme où toutes les familles peuvent se connecter. Et à l'intérieur, vous avez toutes les aides que vous pouvez avoir, tous vos droits. Parce que depuis 2021, la loi a changé pour les aidants, hein, et a été très proactive, hein, faut le souligner. Et donc, vous avez toutes les aides. Et vous pouvez demander à ce qu'on vous contacte. Parce qu'il y a des parce qu'un site internet, c'est un site internet. Des fois, on comprend facilement, des fois, on ne comprend pas bien. Mais vous pouvez demander un contact qui va vous expliquer toutes les aides et les possibilités. On a un numéro dédié avec Psy France. On a un contrat. Tout ça est gratuit, hein, pour les familles. Les personnes peuvent appeler ce numéro gratuitement aux frais de Domusvie et ils ont une psychologue en ligne pour parler. Parce qu'effectivement, les plus gros problèmes, ils ne sont pas matériels, hein, ils sont psychologiques. Et c'est vrai que voir son parent se dégrader, c'est difficilement supportable. Et donc, il faut se faire aider.
Tous ces services, ils sont, vous êtes installés en Occitanie, ici, que ce soit en résidence ou à domicile?
Oui. Alors, à Toulouse, on a une agence de soins et de services à domicile. Et sur la région de Toulouse, on a 10 établissements. Et 80% de nos établissements, au niveau national, ont ce qu'on appelle une unité de vie protégée. Donc c'est des petites cellules, d'accord, où en fait on peut accueillir, elles sont adaptées en toute sécurité, puisque le vrai problème d'une personne atteinte de cognitif, c'est qu'elle n'a plus d'espace temporel et dans l'espace, elle n'a plus de repères, et si elle échappe à notre surveillance, on appelle ça une sortie inopinée, ça peut devenir très compliqué. Donc c'est des espaces fermés, mais qui sont aménagés pour qu'on puisse déambuler, donc préserver son autonomie, qui ont des activités spéciales pour les personnes atteintes de troubles cognitifs et des repères spatiaux et temporels. Il faut toujours avoir dans une unité protégée la lumière du jour, hein, en grande quantité, pour avoir un repère dans le temps. D'accord ? Et si vous avez des zones un peu moins éclairées par la lumière naturelle, il faut créer l'atmosphère où il y a une lumière qui descend et qui monte, de façon à ce que toutes les personnes aient ces repères dans le temps et spatial. Donc on est arrivé à... Parce que le problème, c'est quand vous partez d'un parc existant, il faut avoir les surfaces pour les aménager. Mais malheureusement, dans notre métier, on a des personnes qui rentrent sans troubles cognitifs et au fil du temps,
les développent.
Il faut pouvoir les accueillir dans ces unités de vie protégées petites qui ont maximum 14 lits avec un personnel dédié.
Alors, le sujet concerne bien sûr les personnes à l'extérieur, mais au sein même de vos collaborateurs, au sein même de l'entreprise, qu'est-ce que vous faites?
Oui, alors, effectivement, c'est-à-dire qu'on peut avoir des aidants parmi nos collaborateurs. Sur la France, on en a 16 500. Aujourd'hui, on a 4% exactement de ces collaborateurs qui sont aidants. Attention, aidants, ça peut concerner un enfant ou une personne âgée. D'ailleurs, là où c'est le plus compliqué, c'est pour un enfant, parce que le déni, là, est total. Parce qu'aider son enfant, c'est le rôle d'un parent, c'est ça qu'on pense. Mais en fait, on a basculé dans le statut d'aidant sans le voir. Vous voyez ce que je veux dire ? Aider son parent, c'est pas forcément naturel, on n'a pas forcément le déni. Pour un enfant, c'est mécanique. Hein. Les parents ont toujours le déni, donc il faut arriver à ce que nos collaborateurs nous disent « j'ai un problème » pour l'identifier et l'aider. Ce qu'on a mis en place, alors c'est des petites choses, hein, on a appelé ça, mais c'était un programme qui date de 2018 où on avait dit « petites et grandes attentions pour les collaborateurs ». On a rajouté cette partie des dents, c'est-à-dire c'est tout bête. Vous savez qu'on a tous dans le droit du travail 3 jours de congé familial, pour événement familial. On a considéré que aidant, c'est un événement familial. Parce que, c'est pour l'anecdote, hein, ce qui est stupide, c'est que ceux qui nous ont posé le plus de problèmes, c'est les commissaires aux comptes. Parce qu'ils nous ont dit, vous n'avez pas le droit de provisionner là-dessus. Enfin bref, un truc de dingue, quoi. Mais bon, c'est la France, dans sa grandeur. Ensuite, on s'est dit, aujourd'hui, dans la convention collective, vous avez 3 jours pour enfants malades. Mais ça va jusqu'à 16 ans. Nous, dans notre accord d'entreprise, on a monté jusqu'à 25 ans. Donc, ça veut dire qu'un aidant, il a déjà 6 jours de congé en plus, chez nous. Voilà. Ce qu'on a fait, c'est surtout sensibiliser les managers de proximité. Parce que pour moi, un bon manager, il doit savoir lever le pilier quand un collaborateur est en difficulté, quelle que soit sa raison, et notamment pour quand il est aidant. Donc on a sensibilisé les managers de proximité à savoir interpréter ce que j'appelle lever le pied, quoi. La personne a la difficulté, il faut en tenir compte. Bien sûr, ils ont accès à tout ce que je disais précédemment, c'est-à-dire la plateforme qui donne des conseils, etc. Ils ont ce fameux numéro, comme nos clients de Psy France, pour appeler s'ils ont des problèmes ou qu'ils veulent en parler, tout simplement, hein, parce que c'est ça le vrai problème, hein, c'est en parler, ça fait toujours du bien. Donc voilà, on a mis toutes ces... Et puis là, on a monté. Alors pour l'instant, je vous le dis, hein, tout honnêtement, ça ne marche pas terrible. Mais bon, je suis toujours déterminé. On a monté une cagnotte de jours de repos ou de CP. C'est-à-dire, moi, le premier, j'ai donné 2 jours de mes CP à quel est l'aidant parmi les 4% qui pourra la récupérer. Moi, ça ne va pas me tuer. La personne en question, ça va bien l'aider. Donc, pour l'instant, à part les deux miens, c'est pas plus. Mais on espère qu'en sensibilisant tous les collaborateurs, parce qu'entre les RTT et les CP, si tout le monde donne une journée, on pourra vraiment aider les aidants.
Peut-être avant de voir le film dont vous nous avez parlé, qui va nous montrer un exemple de comment on peut vivre avec la maladie d'Alzheimer, un petit mot pour finir, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire aujourd'hui?
Moi, j'ai envie de dire que depuis que je fais ce métier, effectivement, les aidants, ça a toujours été quelque chose de poignant pour moi. Et on a créé, il y a un an, ce qu'on a appelé le Comité National des Familles, d'accord ? On a créé le Comité National des Familles, c'est des familles volontaires qui ont été sélectionnées et qui nous aident à mieux comprendre. Parce qu'en fait, nous, en tant que professionnels, il y a des choses qu'on ne voit pas, que vous voyez, et c'est normal. Et j'étais la semaine dernière, après un an de travail du Comité National à Bordeaux, avec le Comité National des Familles, ils m'ont expliqué des choses sur leur perception de leurs parents vieillissants. Alors moi, j'ai pas eu cette chance. J'ai perdu mes parents très très jeunes. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai réalisées qui en fait vous font mal en permanence. Et c'est là où je pense qu'on peut vous aider. Voilà. Et il faut jamais rester seul face à la maladie. Et se faire aider, c'est pas une tare. C'est prendre l'aide qu'on peut nous apporter.
Alors, si vous voulez bien, on regarde ce film. Et puis après, on vous laisse la parole si vous voulez poser quelques questions.
Commençons par le début.
Oui. Ça serait mieux.
Avec la maladie d'Alzheimer, la personne perd énormément. Elle perd la mémoire, elle perd la reconnaissance des choses, elle va perdre le phrasé. Par contre, la seule chose qui va rester, ça va être les émotions. L'émotion.
J'ai commencé par apprendre le violon. J'arrivais avec le violon dans la boîte de violon, sur le porte-bagages de la bicyclette, et donc, le piano, le violon, il a fait quelque chose. Bon. De toute façon, j'ai toujours un air dans la tête. Vous chantez un petit air, je vais au piano et je joue l'air. Presque, presque bien. Et c'est plus facile sur un piano. Le piano, il y a... Ben, il y a tout dedans.
Vous m'invitez ?
Oui, quand il y a un piano, j'ai envie de jouer, c'est vrai. Ben, ça me plaît.
Quand son regard croise le piano, il y a reconnexion. Il va se diriger vers le piano, il va s'installer, il va poser ses mains sur le clavier. Et là, il va se recréer sa bulle, il va se recréer sa bulle d'émotion. Et je suis certaine qu'à ce moment-là, bah, c'est des souvenirs qui vont l'envahir. Et de voir qu'à un moment, ils ont oublié leurs angoisses, ils ont lâché prise et se sont ancrés dans le moment présent. Ça, c'est la plus belle des récompenses.
Bravo ! Bravo !
De voir que ça plaît aux autres, ça me plaît aussi. S'il n'y avait pas la musique, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je serais. Oui, c'est vrai.
C'est magnifique.
Oui.
Oui. Vous jouez très bien.
Merci de me le dire.
Je vous en prie.
Voilà pour ce film. Vous vouliez réagir.
Oui, juste un petit mot. Ce monsieur de 97 ans, il ne reconnaît plus un membre de sa famille, aussi bizarre que ça puisse paraître, hein, parce qu'il a l'air alerte, etc. Il ne reconnaît plus. Par contre, ils ont un contact permanent. Enfin, quand ils viennent le voir, ils le mettent au piano et le dialogue qui n'est plus un vrai dialogue s'instaure. Et croyez-moi, pour en voir beaucoup dans ma vie professionnelle, on arrive toujours à trouver le trait qui permet de garder le contact. Des fois, il est difficile à trouver. Pour ce monsieur, c'est assez simple, hein. Parce qu'il a gardé cette mémoire de la musique. Mais croyez-moi, il faut chercher pour le trouver, mais il y a des professionnels pour vous aider pour ça. Voilà.
Alors, Eric, restez avec moi. Je vais me tourner vers vous. Est-ce que vous avez des questions que vous souhaiteriez poser à Eric et Gazier ? Silence dans la salle. La première, c'est toujours la plus difficile. Vous voulez poser une question ? Allez, je viens à côté de vous, regardez. Alors.
Bonjour, donc moi, bon, ben, je suis, on va dire, aidante. Le problème, c'est que j'ai deux parents Alzheimer à domicile. Donc, c'est un enfer. J'y suis pas tous les jours parce que j'ai une vie à côté de ça, mais je gère absolument tout. Et je crois qu'on n'a pas parlé, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres qui sont dans ce cas, de la solitude des aidants. Parce qu'à partir du moment où il y a une personne dans la famille ou dans la société qui gère, tout le monde se décharge sur elle. Et on oublie ça. Et ça, c'est très compliqué. On est en dehors de l'émotion, on est en dehors des parents qui vieillissent, on est hors tout ça. On est dans une espèce de colère et de solitude où on se dit, mais jusqu'à quand on va me charger ? J'ai élevé des enfants, j'ai travaillé, j'ai fait des tas de choses dans ma vie et aujourd'hui, je dois assumer tout ça toute seule, dans tous les sens, le médical, le social, le quotidien. Oui, vous avez vu ça.
Merci beaucoup de ce témoignage.
Oui, alors, c'est quand je vous ai dit, dans ma vie professionnelle, j'ai vu beaucoup de souffrances, c'est celle-là dont je parlais. Alors, n'oubliez pas que vous avez des possibilités de solutions, d'ailleurs, pour nous. Il y a quelque chose qu'on n'exploite pas pour faire des propositions aux familles, c'est les auxiliaires de vie qui vont à domicile. Il faudrait qu'on les écoute plus, parce que ça nous permettrait peut-être de vous appeler et de vous dire, n'oubliez pas, il y a des accueils de jour. Des fois, un jour par semaine, c'est une délivrance, hein. Ça vous permet de faire vos courses, de penser à vous-même, de vous aider, d'aller chez le médecin, etc., ce que disait tout à l'heure l'infirmière. Donc, il y a des accueils de jour, il y a des séjours, des courts séjours. Il y a les plateformes de répit. Alors malheureusement, on n'en a pas sur Toulouse, mais peut-être qu'un jour, j'en ouvrirai une. Voilà, il faut vraiment ne pas vous laisser enfermer dans cette solitude, parce qu'effectivement, on a l'impression que tout le monde s'est détourné. Et d'ailleurs, si vous regardez le film, et c'est pas que je veux en faire la pub, hein, parce qu'on a aidé à le produire, de ces couples qui luttent contre la maladie d'Alzheimer, ce qui ressort, c'est ça. C'est que les amis qu'ils avaient avant, ils n'ont plus personne maintenant, quoi. Parce que la maladie, surtout dans un couple, est difficile à vivre et à faire vivre aux autres. C'est ça qui est compliqué. Mais il y a des solutions, renseignez-vous.
Est-ce qu'il y a une autre intervention ? Oui, je viens à vos côtés.
Bonjour. Alors, vous parliez de la difficulté de former les auxiliaires de vie. Alors moi, j'ai un beau-père qui est dans une résidence de service à Toulouse. Et donc, il y avait une société de service qui avait mis en place des auxiliaires de vie, mais qui n'étaient pas formés. Peut-être volontaires, mais qui n'étaient pas formés. Bon, ensuite, j'ai cherché d'autres solutions. Bon, en ce moment, j'ai 4 étudiants en médecine et un étudiant en droit. Et c'est vrai qu'il y a une forme de plasticité du cerveau. Quand on leur donne des outils qui viennent des formations France Alzheimer ou autres, ça va plus vite. J'ai quand même essayé de former les auxiliaires de vie. Et vous évoquiez en fait la difficulté. Est-ce qu'il serait peut-être temps, puisque c'est un phénomène sociétal, qu'on crée une université pour les auxiliaires de vie, pour les revaloriser, pour leur faire apprécier leur métier? Moi, je l'ai testé à petite échelle, ça marche, quoi.
Ou tout du moins l'intégrer à la formation.
Vous enregistrer.
Ou tout du moins l'intégrer peut-être à la formation.
Non, alors, comment dirais-je? Alors, moi, la difficulté que je parlais, c'est d'intendance. C'est-à-dire juste parce qu'elles sont censées être sur le territoire, jamais dans l'agence de services et de soins. C'était de l'intendance. Par contre, pourquoi je dis j'aimerais vous filmer, parce que je vous présenterai, c'est qu'un groupe comme le nôtre, qui pèse, on fait beaucoup de lobbying au niveau des autorités de tutelle, que ce soit surtout le ministère de la Solidarité, etc. Et moi, je me bats pour faire une formation diplômante pour les auxiliaires de vie, parce qu'elles le méritent. Alors on a réussi, et d'ailleurs sur l'Occitanie, d'ailleurs, j'avais une directrice de région qui à l'époque se battait pour faire assistant en gérontologie en 70 heures, et avec d'autres associations, on a réussi à l'obtenir, d'accord, que ça va se généraliser en France. Mais moi, j'aimerais bien avoir un cursus diplômant pour ces auxiliaires de vie, parce qu'elles ont un vrai métier. Et aujourd'hui, il est reconnu très peu, et notamment sur la partie cognitivité.
Une autre intervention dans la salle, je regarde vos mains. Non, pas d'autre. Oui, madame. Alors, une question ?
Bonjour, j'ai deux questions, je peux. La première, c'est, on en a discuté un petit peu avec les personnes bénévoles à côté. Notre maman est complètement, je suis avec ma sœur, est complètement dans le déni de « je vais réussir ». Elle est au Pays Basque, nous on est sur Toulouse, et en fait on se dit « mais comment faire pour qu'à un moment donné, elle prenne conscience que faire venir un aidant à domicile pour justement la décharger, etc. Aidez-nous là-dessus. » Et la deuxième, c'est l'hérédité. Parce qu'on se dit, si on a une chance sur deux d'avoir le gène, par rapport à la présentation qui a été faite tout à l'heure.
Les médecins, ils vont revenir juste après. On finit sur cette partie-là d'abord. Donc, votre maman aide quelqu'un?
Voilà, notre papa Alzheimer.
D'accord. Voilà. Donc, le papa Alzheimer, la maman aide et est persuadée qu'elle va y arriver toute seule.
Non, là, c'est une question à laquelle, malheureusement, je n'ai pas forcément de réponse. Parce que c'est un des plus gros problèmes, le déni, de ne pas y arriver. Et si vous lui proposez un rendez-vous avec une psychologue, elle va vous dire non. C'est très compliqué d'arriver à faire comprendre à la personne qu'elle est attendue auprès de votre papa, c'est votre papa, comme épouse, pas comme aidante. Mais je n'ai pas de conseil à vous donner plus que ça. Mais c'est vous qui êtes dans la vérité, elle qui est dans le déni, il ne faut jamais l'oublier. Et je suis sûr que ça vous fait souffrir parce que vous la voyez s'épuiser. Mais c'est très compliqué à faire comprendre à une personne qu'elle est, elle est plus dans son rôle ou qu'elle sera meilleure dans son rôle d'épouse que d'aidante. Mais ce n'est pas évident.
Alors,
je vous l'accorde.
Peut-être avant de vous libérer, un dernier point pour rappeler comment on prend contact avec vous pour une solution, que ce soit en résidence ou à domicile pour ses proches.
Ce que je vous invite à faire le mieux, c'est d'aller sur le site domusvie.com et vous allez retrouver toutes les indications, les numéros, les contacts. Et tout ça est gratuit. Et vous aurez, si vous faites une demande d'appel, vous aurez quelqu'un qui vous appelle et qui vous aide à cerner. Parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé là. Quand j'ai dit tout à l'heure le service soins et service à domicile, ensuite je vous dis résidence-service. La résidence-service, c'est juste un bâtiment où il y a des appartements aménagés pour les personnes âgées et vous avez la présence d'une personne. Parce que ça, pour moi, c'est le remède à la solitude. Parce qu'on parle beaucoup de la dépendance, on parle beaucoup de des problèmes cognitifs, mais le plus gros problème de la personne âgée, c'est la solitude. Vous avez des personnes âgées qui sont encore alertes, mais qui restent toutes seules dans leur appartement toute la journée. La seule personne qui voit, c'est l'auxiliaire de vie qui vient intervenir. Et pour ça, vous avez ce qu'on appelle la résidence-service, où vous, à part les appartements, vous avez ce qu'on appelle les parties clubs, où là, ils jouent aux cartes, etc. Ils sont tous ensemble et ils font des activités. Et donc ça, c'est ce que j'appelle, moi, le remède anti-solitude. Parce qu'un des vrais problèmes qui n'est pas trop pris en considération aujourd'hui, c'est la solitude de la personne âgée, qui se désocialise petit à petit.
Bon. Alors, merci beaucoup, Éric Egazier. On va vous libérer parce que je crois que vous deviez vous échapper. On va l'applaudir, on va le remercier. Merci. Ce que je vous propose, c'est de retrouver les deux médecins et l'infirmière qui sont intervenus. Je vais leur demander de venir me rejoindre sur scène. Et on va vous laisser la parole justement pour les questions que vous souhaitiez poser. Je vous en prie, je vous laisse passer les uns les autres, récupérer un micro au passage que vous ferez passer. Alors, du coup, on va reprendre votre question. C'était une question sur l'hérédité, si je ne me trompe pas. Vous me reprenez si jamais je me trompe. Lequel d'entre vous répond à cette question ?
Rassurez-vous.
Oui, il faut l'approcher très près.
Alors, dans ces maladies, hein, parce qu'il y a Alzheimer, mais il y a les autres, mais si on prend l'exemple de la maladie d'Alzheimer, il y a différents types de génétique. D'accord ? Il y a celle dont vous avez entendu parler dans l'exposé de Julien Delrieux. Or, celui-ci, donc c'est en effet, c'est un gène. Hein, c'est un gène et un seul. Donc, il suffit d'avoir un allèle, hein, puisqu'il y a deux brins d'ADN. Donc, il suffit d'en avoir un pour avoir la maladie. Il y a un risque sur deux pour la descendance. Ça ne saute pas de génération, sauf si c'est une nouvelle mutation et qu'on n'avait pas avant. C'est rare. C'est sur des sujets très jeunes. Et que ce que l'on sait a priori de ces maladies, alors de façon simpliste, c'est que dans ces formes génétiques, l'âge de survenue de la maladie est quasiment identique entre ascendant et descendant. Donc c'est des formes vraiment très jeunes. C'est vraiment très rare. Après, il y a les formes, je dirais, qui vont être, je vais dire, plurigéniques. Il n'y a pas un gène, il y en a plusieurs, ce n'est pas dominant, donc il en faut plusieurs. À ce moment, il y a un mélange génétique. Et donc je ne sais pas ce que vous avez reçu de votre père ou de votre mère. Ça peut sauter des générations, puisque peut-être que vos parents... mais il peut y avoir des familles qui n'ont pas de parents atteints, mais je reçois des gènes de mon père, de ma mère, et là, je m'en prends entre risques. Et ensuite, s'il y a d'autres types de risques, avec notamment un gène qui va coder pour un transporteur du cholestérol, qui là, lui, va augmenter le risque. Et donc là, c'est des formes, je vais dire, un peu particulières de la maladie. Et là, c'est toujours un risque. Ce n'est pas parce que j'ai ce gène que je vais faire la maladie, mais ça augmente mon risque. L'élément principal, c'est quoi ? C'est qu'en effet, d'avoir un parent atteint d'une maladie, mais c'est vrai pour quasiment toutes les maladies, j'ai en effet plus de risques. Dans ce type de maladie, sauf les formes très jeunes, le poids principal, c'est quand même l'âge. Ce sont des maladies associées au vieillissement. Et que surtout, c'est être dans la prévention. C'est que même si j'ai des gènes à risque, le manger, bouger, faire du sport, bien manger, etc., etc., va modifier l'expression aussi du risque. Donc, il faut s'occuper de sa machine. Et donc, ça, c'est, je dirais, l'élément principal plutôt que de psychoter sur son propre risque.
Est-ce qu'il y a des questions pour les médecins qui sont là ou l'infirmière ? Oui ? Il y a une main qui s'est levée par ici, non ? Alors, attendez, je vais revenir vers vous au fur et à mesure.
Je voulais savoir la différence qu'il y a entre Korsakoff et la maladie d'Alzheimer, parce que mon père a eu la maladie de Korsakoff, et pour moi, c'est presque les mêmes symptômes.
Alors, la maladie de Korsakoff est une complication de l'alcool, hein, liée à des carences vitaminiques. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la maladie de Korsakoff. La maladie de Korsakoff va donner sur le plan de la mémoire les mêmes lésions que l'on voit dans la maladie d'Alzheimer. Donc au niveau justement des régions des hippocampes. Et donc on peut avoir du coup des troubles de la mémoire qui peuvent être un peu similaires que ce que l'on voit dans la maladie d'Alzheimer, sauf que la cause est différente. Alors, c'est des complications de l'alcool liées à des carences en vitamines.
Il apprend des choses. Bon. Il y avait une autre question. Je vais revenir vers vous. Oui.
J'avais deux questions. Bonjour, messieurs, dames. Est-ce que vous avez aujourd'hui des études qui ont porté sur l'impact du Covid qui aurait généré des maladies neurodégénératives? Et la deuxième question, c'est que quand j'ai vu un certain nombre d'études, les personnes ciblées avaient un MMSE qui était au-dessus de 20. Est-ce que ça veut dire qu'en dessous, c'est plus difficile de faire des tests sur la population par rapport aux différents protocoles d'essai?
Alors déjà, la première question est suite du Covid.
Alors, effet de récence, il y a deux études qui viennent d'être publiées dans de grandes revues médicales sur justement l'impact intellectuel du Covid et avec un effet assez long, hein, justement, du retentissement intellectuel. Mais c'est les conséquences de l'infection au virus. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est certains types de populations, etc. Donc ça ne crée pas de maladies neurologiques dégénératives. Par contre, si je reprends l'exemple et l'image de mon robinet qui fuit sous un récipient, vous avez votre récipient à moitié plein, le Covid, c'est un glaçon que vous jetez dans votre récipient, et là, ça va déborder. Et ça va mettre en exergue des difficultés qui préexistait, qui peut éventuellement, ben, si je dirais j'arrive à retirer le glaçon, ben, s'apaiser et on va redevenir dans un état à peu près stable, mais parfois ben, on n'arrive pas, on est très proche du bord et en fait on va voir apparaître une maladie dégénérative. Ou alors, rappelez-vous, je vous ai dit que malheureusement un stade de maladie d'Alzheimer avéré, trouble neurocognitif majeur, seulement un tiers est détecté. Mais j'ai le Covid, ça met un glaçon sur quelque chose qui débordait déjà, sauf que du coup, ça va mettre l'accent sur quelque chose qui existait déjà, mais je n'en avais pas encore conscience. Et du coup, je vais diagnostiquer une maladie. Donc en fait, ce n'est qu'un révélateur de quelque chose, une maladie neurologique dégénérative, 15-20 ans avant que ça déborde. Elle existe déjà.
Mais le Covid ne va pas être à lui seul, les conséquences du Covid, non. Un élément qui apporterait cette maladie.
Mais toute affection qui peut toucher au cerveau, qui va se surajouter une maladie dégénérative, ben ça peut déborder, que ce soit le Covid, un accident vasculaire cérébral, tout ce que vous voulez. Et donc ce n'est pas spécifique du Covid, mais ça n'explique pas. Ce n'est qu'un révélateur, qu'un cofacteur qui vient aggraver une situation préexistante.
Alors, il y avait une deuxième question qui était un petit peu technique, sur des marqueurs, c'est ça ?
Juste, vous avez marqué un certain nombre d'informations, et sur la population cible, sur lesquelles il y a eu des tests de différents protocoles, il y avait marqué MMSE supérieur à 20. Donc, voilà.
Aujourd'hui, la recherche internationale...
On va peut-être redire ce que c'est MMSE.
Alors, le score MMSE, c'est un test d'efficience cognitive globale. Ce n'est pas un test qui évalue spécifiquement la mémoire. Il évalue succinctement l'ensemble des domaines cognitifs. C'est le test qu'on utilise le plus souvent, pas pour faire le diagnostic, mais pour donner une idée globale et approximative de la sévérité d'un trouble cognitif. Et on l'utilise également dans le cadre de son suivi. C'est un test sur 30 points. Donc on a l'habitude de dire que inférieur à 26, s'il se passe quelque chose, alors il peut bien évidemment se passer quelque chose en étant au-dessus de 26. Mais de manière un peu caricaturale, on dit qu'entre 20 et 26, le déficit est léger. Inférieur à 20, il est un peu plus prononcé, modéré, voire plus, c'est-à-dire sévère. Dans la recherche thérapeutique, on a 20 ans d'échecs. Et pendant ces 20 années, on a globalement ciblé des personnes qui avaient une atteinte cognitive très probablement un peu trop évolué. Si on reprend l'image du verre, on a essayé de traiter, d'arrêter le robinet chez des verres qui étaient déjà pleins. Les médicaments aujourd'hui que l'on teste ne nous permettent pas d'écoper le verre. Ils nous permettent au mieux de ralentir la fuite et on espère de l'arrêter. Donc plus tôt on intervient, mieux c'est. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tendance à intervenir plutôt chez des personnes qui ont la maladie, mais qui ont un respect de leur autonomie. C'est ce qu'on appelle le stade prodromal de la maladie. Vous avez vu, il y a également des études de prévention, encore en amont, c'est-à-dire chez des gens qui n'ont pas de troubles de la mémoire, mais qui ont pourtant une ponction lombaire positive ou un examen d'imagerie qui fait évoquer le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Alors aujourd'hui, il existe encore une recherche pour les personnes qui ont des scores MMSE plus bas, des maladies plus évoluées, mais ils sont moins fréquents qu'avant. Et la majorité de ces thérapies que l'on teste à des stades un peu plus avancés sont finalement plus à viser de traitement des complications comportementales que le traitement de la mémoire. Parce qu'il est déjà probablement un peu trop tard pour s'occuper de la mémoire lorsque l'atteinte elle est déjà un peu trop diffuse et un peu trop importante.
Alors, vous aviez une question.
Bonjour, donc déjà merci pour ces conférences qui accueillent le grand public. Donc ma première question, elle est justement sur ces bilans dont vous parlez, qui ont l'air très standardisés avec des questions, les 30 points à contrôler. Moi, je me posais la question sur la subjectivité. Et par exemple, nos parents, je parle les anciennes générations, ont un peu moins de niveau d'études que nous maintenant. Donc, comment on peut détecter ou être objectif sur ces tests quand des fois on se dit, bah, c'est juste que c'est une personne qui a arrêté l'école à 15 ans ou même avant et qui, du coup, bah, forcément, elle sait peut-être moins de choses. Ou alors, comme vous disiez, sur les cofacteurs, la fatigue, le stress, etc. Et donc on se dit, bah, sur ce diagnostic précoce, on n'arrive pas bien à le faire finalement parce qu'on a l'impression qu'il y a plein d'autres choses qui interviennent autour. Donc comment être objectif pour mieux percevoir les choses et plus tôt ?
Alors justement, ces tests, l'idée c'est d'être objectif sur... Alors attention, on évalue des performances qui sont très individuelles. Ces performances, lorsqu'on fait des tests, on va... comparer les résultats de l'individu testé à des normes de sujets de même âge, de même sexe et de même niveau culturel. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va comparer des gens comparables. Okay ? Et quand on va évaluer l'individu, on va bien sûr se questionner sur les facteurs de performance. Si on vient me voir en consultation, qu'on n'a pas dormi, qu'on est anxieux, que je n'ai pas pris mes lunettes et que j'y vois rien, forcément... je vais interpréter les valeurs de la performance et valeurs au test d'une façon différente. Et ensuite, ces tests ont l'intérêt, c'est aussi de montrer le fonctionnement intellectuel qui va être totalement différent si je suis, par exemple, fatigué, mal dormi, que si j'ai une maladie neurologique dégénérative qui touche les hippocampes. Ces tests vont permettre d'identifier pourquoi la mémoire dysfonctionne. Votre mémoire, si je suis simpliste, c'est d'abord être attentif pour que l'information s'enregistre et pour pouvoir ensuite la retrouver. Dans la maladie d'Alzheimer, c'est un défaut d'enregistrement de façon principale. Et donc on va contrôler d'autres facteurs pour justement essayer d'évaluer cet enregistrement. Vous, si vous êtes fatigué, vous aurez du mal à être attentif, on va essayer de le contrôler pour que vous puissiez enregistrer et après vous aurez peut-être des trous pour retrouver cette information. Mais les tests vont pouvoir permettre de les identifier. Et plus, je dirais, on est précoce, plus les tests réalisés seront importants. Ce ne sera pas du coup un MMS, des petites choses, ce sera des bilans beaucoup plus exhaustifs des performances. Et parfois, on ne sait pas. Et l'intérêt aussi d'avoir ce type de bilan à un moment donné, c'est que plutôt que justement de comparer l'individu à une moyenne, c'est qu'on pourra éventuellement avoir une référence à un moment donné pour le comparer à lui-même et être justement plus précis sur l'évolution. Donc à un moment donné, parfois, on ne sait pas. En tout cas, il n'y a pas d'éléments qui nous disent « il faut aller plus loin ». Mais par contre, on a une référence. Et du coup, ça nous permettra un suivi. Et c'est parce qu'on ne trouve rien qu'il n'y a rien. Il faut faire attention. On est, entre guillemets, normal à un test en fonction de la difficulté du test. Ce que je dis toujours quand je fais de l'enseignement, je connais quasiment tous les tests par cœur. Il faudrait être inventif pour me mettre à mal lorsque j'aurai des problèmes de mémoire. Ce n'est pas par les tests, en tout cas ceux qui existent, qu'il faudra essayer de diagnostiquer chez moi des problèmes de mémoire. Mais je fais confiance au docteur Delrieux pour me mettre des pièges et des matons dans les roues.
Vous aviez une autre question.
Oui, merci. Merci pour votre réponse déjà. Donc là, ça sera plus sur le côté médical, j'ai envie de dire. Donc, je connaissais, je pense, l'IRM structural, mais pas l'imagerie fonctionnelle. Je ne sais pas si c'est quelque chose, en fait, parce que notre papa a passé un IRM, donc j'imagine que c'est classique, le structural, mais qu'il n'a pas fait d'imagerie fonctionnelle. Est-ce que c'est quelque chose qui est moins prescrit ou qui est plus rare, qui est plus cher? Je ne sais pas. Et du coup, par rapport à ce côté un peu plutôt traitement aussi, et donc médical, donc vous nous avez dit la mauvaise nouvelle que l'Europe n'accepte pas les deux traitements qui sont proposés. Mais le neurologue que voit notre père nous a parlé d'un traitement quand même pharmaceutique, de ce que j'ai compris, ça serait plutôt des médicaments, que notre père pourrait prendre, qui ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale, qui existent actuellement. Et du coup, bah, je ne sais pas ce que c'est ce traitement qui pourrait être proposé à notre papa. Donc si vous le connaissez, vous pouvez nous en dire un peu plus. Merci.
Je vais répondre à la question scintigraphie, puisque c'est moi qui l'ai abordée. Je vais laisser Julien Delrieux parler des médicaments. Donc la démarche diagnostique, on fait des tests, parce que on repère des difficultés, d'accord, et après, on essaie de trouver la cause. Et là, on fait une IRM. Okay. À partir de là, on va, si on n'a pas la réponse ou si on a un doute, à ce moment, on va s'appuyer sur d'autres examens. D'accord. Mais les autres examens ne sont pas obligatoires. La scintigraphie cérébrale, donc cette imagerie fonctionnelle, on va en effet la réaliser, surtout, je vais dire, lorsqu'il y a des atypies. C'est-à-dire qu'une discordance entre des tests et une IRM, on ne trouve pas grand-chose. Au contraire, on trouve des choses à l'IRM et pas les tests, ou en tout cas pas les mêmes régions, je dirais, qui expliqueraient les difficultés. À ce moment, on va demander à l'examen autre chose pour nous aider à comprendre cette dissociation entre les performances de l'individu et son IRM. D'accord ? Et pareil pour la ponction lombaire, elle n'est pas obligatoire. Souvent, ça va être là aussi des présentations particulières où on doute, ça peut être de la recherche thérapeutique. Donc, on n'a pas forcément besoin d'avoir cette signature pour dire c'est une maladie d'Alzheimer probable. On reste sur un diagnostic de probabilité. Donc là, ça va être une discussion de savoir jusqu'où on va sur la certitude de cette étiquette que l'on veut porter.
Alors pour les médicaments, vous avez compris que sur les thérapies anti-amyloïdes, ce n'est pas encore fini, mais pour le moment, l'Europe n'est pas favorable, ça peut changer. Par contre, il y a des anciens médicaments qui sont déjà disponibles depuis environ 20 ans en officine. C'est ce qu'on appelle les traitements symptomatiques. Les traitements que je vous ai présentés, ils ont pour but de lutter directement contre les protéines que l'on présume responsables de la maladie. Les vieux traitements, entre guillemets, en tout cas les traitements qui sont disponibles en officine, ce n'est pas ça leur objectif. Ils ne ciblent pas les dépôts protéiques. Leur objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que les neurones qui sont toujours là puissent fonctionner au mieux. Essayer d'optimiser les neurones restants, en quelque sorte. Ces médicaments, ils ont montré leur efficacité dans de courtes études qui ont lieu il y a plus de 20 ans. D'accord ? Au fur et à mesure de leur utilisation, c'était une nouveauté il y a plus de 20 ans. Tout le monde était très enthousiaste, à la fois la communauté médicale, à la fois les patients, à la fois les familles de patients. Ces médicaments, on savait d'emblée que ce n'était pas un miracle, mais je pense qu'ils sont arrivés à un moment où il n'y avait rien du tout, où ils ont été accueillis de manière peut-être trop providentielle. On a vu au fur et à mesure de leur utilisation qu'ils ont une efficacité, mais cette efficacité est très, très modeste. Ils ont également quelques effets secondaires qui nécessitent quelques précautions d'emploi. Les effets secondaires qu'on leur connaît le plus, c'est sur le versant digestif. À la vue de cette très faible efficacité, à la vue de la potentialité d'effets secondaires, les agences réglementaires ont décidé de les dérembourser en 2018. Ce sont des traitements que l'on peut continuer à prescrire. Ponctuellement, je continue à les prescrire dans des situations particulières. Et ce sont des traitements qui ont un coût variable, je dirais, de 25, 30, 40 euros par mois habituellement. Donc il est envisageable de les essayer sur une période de 6 mois pour voir ce que ça donne, mais il est important de garder en tête que l'efficacité est modeste. Il ne faut pas en attendre plus que ça, et surtout pas mettre un médicament et se dire « ça y est, on a fait le job ». Le job, c'est peut-être discuter du médicament, mais surtout mettre en place tout ce qui est nécessaire autour.
Les effets secondaires dont vous parliez, digestifs, c'est-à-dire ?
Principalement des nausées, des vomissements.
D'accord. Alors, peut-être une autre question. Qu'est-ce qu'il en est des tests sanguins ?
Alors, ce qu'il en est des tests sanguins, c'est que ça avance très, très vite. Très vite. Il y a 10-15 ans, on n'avait pas les bonnes techniques pour doser ces protéines dans le sang. Il faut imaginer que les protéines qu'on dose dans le liquide céphalorachidien, dans le sang, leur concentration, elle est 100 fois moins importante. Et elles interagissent avec les protéines. Il y a beaucoup plus de protéines dans le sang qu'il y en a dans le liquide céphalorachidien. Donc leur mise en évidence, elle nécessite vraiment des techniques ultra sensibles. Et ça, ça a pris beaucoup de temps à évoluer. Ça arrive petit à petit. Il y a des laboratoires qui s'occupent spécifiquement de la mise en place de ces marqueurs dans le sang. Certains marqueurs dans le sang commencent à avoir un marquage pour leur utilisation en recherche. Certains laboratoires sont en cours de labellisation pour une utilisation clinique. Donc on peut penser, en étant très optimiste, que ça sera disponible l'année prochaine, en l'étant un peu moins dans les années qui vont arriver. Mais globalement, on dose la même chose dans le sang qu'on ne le fait dans la ponction lombaire. Alors de là à dire que ça va remplacer la ponction lombaire, peut-être pas, mais peut-être que ça sera un élément que l'on pourra utiliser initialement pour suspecter ou potentiellement rassurer dans des indications bien précises.
Peut-être une dernière question. On a entendu un témoignage de la solitude des aidants. Souvent, les aidants se sentent seuls. Ils ne savent pas qui solliciter ou trouver de l'aide. Comment on peut identifier les ressources, les aides ? Qui on peut appeler ? C'est pour vous ?
Alors, je vais vous parler. Alors, je suis donc neurogériatre, neurologue et gériatre. Donc je vais vous parler en tant que gériatre. Je pense qu'il est important, quand on suit un couple aidant aidé, ou en tout cas un aidant d'un patient présentant une pathologie chronique et donc dégénérative, qu'il y ait aussi une relation nouée avec le spécialiste, justement pour pouvoir se livrer et savoir qu'est-ce qui se passe. Et que la consultation de suivi, c'est aussi une consultation de l'aidant. Et à partir de là, justement, d'ouvrir des portes. Chaque aide, je dirais, est individuelle. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on va construire ensemble. Certains acceptent plus facilement l'intervention de personnes chez eux. D'autres sont plutôt dans un refus. Alors, on a entendu parler tout à l'heure beaucoup de déni. Il faut faire attention. Il y a déni et il y a anosognosie. Donc, c'est un symptôme de la maladie. Je ne me sens pas malade. Et donc là, c'est difficile. C'est un élément aussi pourquoi il faut faire un diagnostic précoce, avant l'arrivée de cette anosognosie. Parce que mettre en place des choses lorsque je ne me sens pas malade, ça devient compliqué. Donc, en fait, il faut, à ce moment-là, voir ce qui est possible et oser en parler. L'idée, comme vous l'a évoqué Sandrine Augusto, c'est d'abord se reconnaître comme aidant. À partir de là, essayer de discuter. Moi, j'ai pour habitude de discuter avec les aidants, en présence, bien sûr, du patient, de l'ensemble des aides possibles. Et puis, à partir de là, ben, on discute. Qu'est-ce qui est fait pour vous ? On fait ses courses, entre guillemets, et on essaye. Et puis, parfois, ben, on ne sait pas ou on résiste. À ce moment-là, ben, c'est « faites-moi confiance, essayez, on verra ». C'est comme au restaurant, il y a un plat, on ne sait pas ce qui se cache derrière, mais parfois on est surpris, on dit « j'ai bien fait de choisir ça ». Donc il faut essayer. Puis après, à des moments, c'est on est dans une impasse. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, on n'y arrive pas, il y a des refus, il y a des échecs. À un moment donné, malheureusement, il faut changer d'impasse. On est trop au fond du mur, il n'y a pas de solution miracle, mais parfois il faut imposer quelque chose, parce que quand on demande, ce sera « non », on y va. Et on essaye quand même. Et puis parfois, on va voir, heureusement, hein, c'est des relations humaines, et il y a des professionnels extérieurs qui vont nouer une relation, et puis ça va bien se passer. Donc parfois, il faut essayer avant de dire non. Et parfois, c'est...
C'est les aidants qui peuvent même dire non alors qu'ils ont besoin d'aide, oui, mais ils formalisent qu'ils ont besoin d'aide, mais en même temps, ils vont souvent dire non à ce qu'on va leur proposer, ça ne va pas convenir.
En fait, chacun y va de sa personnalité, de son expérience, de sa façon d'être. Et donc, à un moment donné, c'est aussi de le comprendre et de l'accepter. Parfois, avoir certaines aides va entraîner plus d'épuisement que ce pourquoi on les aurait mis. Donc, à un moment donné, c'est une discussion. Il n'y a pas, je dirais, de règle écrite. Il faut en discuter. Et parfois, on essaye et on voit. Mais c'est pas, je dirais, il n'y a pas de choses toutes faites. L'accueil de jour, ce n'est pas pour tout le monde. Certaines prises en charge, ce n'est pas non plus pour tout le monde. Certains vont y adhérer, d'autres pas. Mais il faut en parler. Puis il y a, donc, s'il y a une chose à identifier, c'est vraiment les plateformes de répit pour les aidants, où justement on peut obtenir une écoute, des conseils, un accompagnement par des groupes de parole. Donc s'il y a peut-être une chose avec les associations de famille à retenir, c'est ces plateformes de répit pour les aidants, puisque ce sont des structures dédiées pour justement accompagner les aidants dans comment mieux prendre en charge, comment être un aidant de qualité, pas trop fatigué, pas trop épuisé. Il faut... Et que je reprendrai l'image, les deux images de Sandrine Augusto, que ce soit cet équilibriste sur un fil, il faut essayer d'éviter de tomber et surtout ne pas s'approcher trop près de la falaise. Quand on veut jouir d'un paysage, bien sûr, il faut s'arrêter à un moment donné, sinon on tombe. Il ne faut pas s'arrêter à 3 km, on ne voit rien. Donc la subtilité, c'est justement de s'approcher, c'est-à-dire d'être aidant, mais à partir de là, c'est d'un moment donné de dire stop, je ne peux plus. Et puis en fonction de sa personnalité, on va s'arrêter un peu plus tôt parce que j'ai le vertige, et donc je ne vais pas m'approcher trop près, ou j'ai besoin d'une barrière, d'une sécurisation, d'une personne à côté de moi, ou d'autres sont un peu plus téméraires, et vous s'approchez un peu plus proche, avant d'accepter quelque chose. Mais l'idée, c'est de ne pas tomber. Et pour ne pas tomber, il faut en parler avant. C'est où je vais. Et donc là, c'est un échange avec les professionnels, avec les associations, les groupes de parole, et donc ces plateformes de répit.
Merci beaucoup à tous les trois. On va s'arrêter là. On va poursuivre justement. On va les applaudir d'abord. Ah, alors attendez, on va continuer. Vous inquiétez pas. C'est sur les aides pour les aidants, sur le répit ou sur les symptômes et la maladie.
Noël.
Ne bougez pas juste, madame.
Le diagnostic précoce, plus il était de fœtaux, mieux c'était. Quand on a un parent qui a la maladie d'Alzheimer, si on veut se faire diagnostiquer, j'ai bien compris que ça dépendait du gène qu'il nous avait transmis, que ce n'était pas forcément obligatoire, mais comment on fait, auprès de qui on fait ce bilan, où on s'adresse, est-ce qu'il faut une prescription d'un médecin traitant, voilà.
Répondre, je réponds parce que tu es long.
Oui, il faut qu'on conclue parce que on va parler du répit pour les aidants.
Il faut vous rapprocher d'une consultation mémoire,
d'accord ? Consultation mémoire.
Globalement, il y en a sur le CHU, ça peut être également auprès de neurologues libéraux. C'est bien que vous ayez une lettre d'adressage par votre médecin traitant. Comme le disait le docteur Voisin, le fait d'avoir un antécédent, ça reste une susceptibilité, mais pas du tout une destinée, loin de là. On est 25% dans la salle à avoir une susceptibilité par rapport à cette maladie. Donc rapprochez-vous de votre médecin, discutez-en avec vous, et il va vous adresser avec la personne avec laquelle il a l'habitude de travailler.
Merci beaucoup, je vous laisse redescendre. Alors, le lien à terme entre les enfants qui sont TDA et les maladies d'Alzheimer. Il y a beaucoup de similitudes. Oui, non?
Je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de recherches sur le TDA et la maladie d'Alzheimer. Déjà parce que le TDA, ça reste une entité semi-récente en termes de diagnostic. On était plein, je pense, plein de personnes avaient un TDA précédemment et n'étaient pas diagnostiquées. C'est comme les 10, tout ça, c'est quand même une entité de découverte semi-récente. Donc ce lien, on ne le connaît pas. Avant tout, le TDA, comme son nom l'indique, c'est un trouble de l'attention. Au pire, on peut retrouver, enfin même assez souvent, un émoussement sur le plan exécutif, c'est-à-dire dans l'organisation, la planification des choses qui peut vraiment être touchée, et une certaine forme d'impulsivité sur le plan comportemental. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là.
Non, ça s'arrête là. Pas de lien. On vous remercie à tous les trois. Merci beaucoup de vos interventions.